Mais d'abord, on va aller rejoindre sans plus tarder le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Bonjour.
Bonjour, M. Drainville.
Merci de prendre le temps de nous parler, Jean-François, parce que je sais que vous êtes très occupé. Là, vous avez déposé sur la table deux scénarios de retour en classe pour septembre. Le premier, essentiellement, c'est 5 jours par semaine dans la classe, comme avant, avec des mesures, évidemment, de santé, là, des mesures de protection et tout le reste. Le scénario B, par contre, ce serait une fréquentation à mi-temps. Donc, peut-être 2 jours, 3 jours par semaine dans la classe. Moi, je veux vraiment aller à l'essentiel avec vous. Si c'est 2 ou 3 jours par semaine dans la classe, où est-ce qu'on met les enfants le reste de la semaine, Monsieur le ministre?
C'est une question. D'abord, c'est un enjeu qui se pose moins si on parle du secondaire, là. Nos adolescents peuvent tout de même là, être à la maison et continuer de faire des lectures, faire des travaux, surtout s'ils savent que le lendemain, ils sont en classe avec l'enseignant. Donc, une certaine pression puis un encouragement, une motivation à faire les lectures, les travaux, les exercices. Pour le primaire, c'est un enjeu. On s'en cache pas. C'est pas évident. On pourrait bien offrir des services de garde d'urgence pour un nombre limité d'enfants, de travailleurs, supposons des gens, là, nos anges gardiens qui sont dans nos CHSLD, dans nos hôpitaux. Mais pour deux parents qui travailleraient à temps plein, qui n'auraient pas la chance de faire du télétravail, c'est pas évident. C'est difficile. C'est nettement mieux que la situation actuelle, par exemple. Il faut se le dire. Dans le Grand Montréal, nos écoles primaires sont tout simplement fermées 100 % du temps. Là, on réouvrirait 50 % du temps. C'est pas mal mieux, mais c'est tout un enjeu de société, de gestion du travail, un enjeu familial. C'est pas mon plan A. Hein. Le plan A, c'est une ouverture tous les jours.
Oui, mais d'ailleurs, le plan A, faisons une petite parenthèse, là, parce que je suis passé rapidement déçu. Le plan A, dans le fond, pour que ça puisse fonctionner, donc on retourne essentiellement en classe comme avant la COVID, mais avec des mesures de sécurité sanitaire, il faudrait à ce moment-là que la santé publique réduise ses exigences en matière de distanciation. Si la santé publique maintient le 2 mètres de distanciation, on ne peut pas mettre tous les élèves dans la même classe comme avant. Donc, le plan A vient de sauter à ce moment-là. On n'a pas le choix que de s'en aller vers le plan B, c'est-à-dire du temps partiel.
Vous avez raison de le dire. On ne peut pas avoir un plan A, c'est-à-dire d'avoir dans une école primaire où il y a, supposons, 400 élèves, ben, les 400 élèves, 20, 22, 23 élèves par classe et le 2 mètres respecté en tout temps. Est-ce que Santé publique, considérant là, notre niveau de contrôle de la pandémie, considérant qu'on s'habitue à faire attention avec toutes sortes d'équipements de protection, avec des masques, on en a besoin, avec des conditions d'horaire aussi pour s'assurer que les élèves ne fréquentent pas des lieux communs. On ne va pas à la bibliothèque de l'école, on ne va pas dans le local polyvalent. On s'arrange pour éviter que les élèves d'une classe et de l'autre n'entrent en contact. Donc, en cellule fermée, classe par classe. C'est quand même moyen de prendre des mesures. Mais est-ce que ça sera jugé acceptable par la santé publique?
En septembre? En septembre. C'est possible, mais mettons
si
que c'est...
Si je ne croyais pas, je ne le proposerais pas.
Mais mettons que ce n'est pas le scénario le plus probable au moment où on se parle, Jean-François Roberge.
Ben, pour demain là, ou pour aujourd'hui, là, ce serait non. Bon, parce qu'on les ouvrirait, nos écoles, si on pouvait les ouvrir tout de suite, M. Drainville. Mais je peux vous dire qu'avant de les soumettre au public, puis les soumettre à nos experts du ministère, puis aux syndicats, puis aux directions d'école, j'ai quand même eu une petite conversation avec nos amis de la santé publique.
Oui.
Si je l'ai mis sur la table, c'est parce que je pense quand même que c'est possible.
Mais êtes-vous d'accord avec moi, si on est obligé d'aller vers du temps partiel, donc ça pourrait être, par exemple, une semaine de 3 jours à l'école, puis une semaine de 2 jours ailleurs, soit à la maison, soit dans un autre lieu. Puis la semaine suivante, ce serait 2 jours à l'école, puis 3 jours à la maison ou dans un autre lieu. Êtes-vous d'accord qu'on ne peut pas prendre pour acquis, Jean-François Roberge, que les parents ou le parent va être à la maison pour s'occuper de son enfant quand il ne sera pas en classe? En d'autres mots, il faut que vous ayez une alternative à proposer pour les enfants qui ne pourront pas rester à la maison faute de supervision parentale ou faute de grands-parents pour s'en occuper. On s'entend là-dessus?
Bien, on y travaille. On y travaille à ces alternatives-là. Moi, je voulais mettre sur la table des scénarios pédagogiques, éducatifs, puis vous testez ça avec les partenaires, sachant qu'après, nous arrivent les contraintes, puis qu'on soit nombreux à trouver des solutions. Avec mon collègue, peut-être le ministre de la Famille, avec les oppositions, avec les experts. Je viens d'avoir une conversation très intéressante, d'ailleurs, en visio, avec les porte-parole des oppositions. Donc, je salue le ton, là, honnêtement. Il n'y a pas de partisanerie, il n'y a pas personne là, qui cherche à trouver des problèmes. Tout le monde cherche à trouver des solutions. Ils en ont proposé des solutions. On va les tester. Puis on a un peu de temps justement devant nous pour répondre à ces contraintes-là. Si j'étais arrivé avec ces scénarios-là le 20 août, on serait dans l'improvisation. Mais en arrivant là avec ça au mois de mai, on est capable de résoudre tout ça ensemble.
Regardez, j'ai Simon qui m'écrit là. Il dit « Faudrait que le ministre Roberge comprenne que le télétravail avec des enfants d'âge primaire, ça ne fonctionne juste pas. Ce que je fais actuellement, je suis seul car ma conjointe travaille dans les services essentiels et je suis au bout du rouleau. » Et j'imagine un couple où les deux travaillent peuvent absolument pas être en télétravail le jour où l'enfant n'a pas de classe parce qu'il peut pas être en classe parce qu'on a divisé la classe en deux. J'en reviens à mon point premier, Jean-François Roberge. Il faut que vous ayez une proposition pour les parents qui ne pourront pas garder l'enfant à la maison. Est-ce que ça peut... C'est parce que moi, je me mets dans votre tête, là, puis j'ai pas toute l'information comme vous, mais j'essaie d'imaginer, OK... Quel pourrait être ce lieu? Est-ce qu'on les... un centre communautaire où on les... Il y aurait une possibilité de les mettre là quand ils ne sont pas en classe puis ils ne peuvent pas être à la maison? C'est ça que je cherche avec vous, là.
Si on y va avec une fréquentation à temps partiel, ce qui n'est pas mon premier choix, je le répète, là. Oui. Si on est obligé d'aller vers ça, pour le secondaire, ça peut toujours aller, surtout si notre ado là, est à l'école un jour sur deux. Le jour qu'il est à la maison, il peut très bien se garder tout seul, puis faire ses travaux, faire ses lectures au moins une partie de la journée. Pour nos plus jeunes, il faut penser à des alternatives. Vous avez raison de le dire. Est-ce qu'il pourrait y avoir des locaux communautaires qui sont utilisés? Est-ce qu'on peut en profiter pour organiser des sorties éducatives dans nos musées? Est-ce qu'on peut utiliser toutes sortes de locaux? Là, c'est pas juste du gardiennage. On peut faire des activités qui sont stimulantes, intéressantes, culturelles, sportives pendant ces journées-là. Comment on fait ça? Quels sont les coûts? Et qui s'en occupe? Parce que 100% de nos profs vont être dans nos classes, là. Il n'y a pas d'enseignants qui n'ont pas d'emploi, là. Tout le monde serait occupé. Donc, ça veut dire faut trouver des gens là pour s'occuper de ces jeunes-là si la famille dit « Je ne suis pas capable, moi, de m'occuper de mon jeune un jour sur deux. » Si d'aventure, c'est ce scénario-là qui s'impose pour le primaire. C'est tout un enjeu. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps ensemble de regarder quels sont les impacts. Puis je nous rappelle que, bien sûr, c'est des enjeux, puis c'est pas l'idéal, mais c'est toujours bien, tellement mieux que ce qu'on vit en ce moment dans le Grand Montréal et dans le reste du Canada. Dans le reste du Canada, il n'y a pas d'école primaire ouverte.
Nulle part, hein?
Zéro. La seule place où il y a des écoles primaires qui ouvrent, c'est au Québec, à l'extérieur du Grand Montréal.
Et ça s'est très bien passé.
Britannique à demi-temps.
Et ça s'est très bien passé, il faut le dire, là, en terminant, je le disais à Paul Arcand ce matin, là, ça s'est très bien passé, la rentrée du primaire à l'extérieur de la région de Montréal, ça s'est somme toute très bien passé, et ça, il faut s'en féliciter, là.
Bien, merci de le souligner, parce qu'on a travaillé extrêmement fort pour le planifier. Ça n'a pas été improvisé, ça a bien fonctionné, parce que tout le monde y a mis du sien, puis moi, je pense qu'on va faire la même chose pour la rentrée de l'automne.
Okay.
On va bien la préparer, puis on va la réussir.
Alors, j'ai des commentaires, Jean-François Roberge, par exemple, quelqu'un qui m'écrit « Le ministre se souvient pas de ses années d'adolescence. Je suis pas certain que la majorité des ados vont faire des devoirs, des leçons, vont suivre la classe les journées où ils ne seront pas en classe. Je partage son scepticisme. Quelqu'un d'autre me dit pourquoi ne pas y aller avec une moitié de classe le matin, l'autre moitié de classe l'après-midi. C'est toutes des formules auxquelles vous réfléchissez, Jean-François. Je vais vous laisser parce que je dois vous laisser à 12h15.
Oui.
C'est l'engagement que j'avais pris. Je rappelle que vous êtes évidemment le ministre de l'Éducation. Bonne réflexion.
Merci, on se reparle. Bonne journée tout le monde.
Et Jean-François Roberge qui mentionnait que les porte-paroles de l'opposition sont dans un état d'esprit très constructif. On va aller rejoindre deux d'entre elles. Marois Risky, députée de Saint-Laurent, qui est porte-parole évidemment pour l'opposition libérale. Bonjour Marois Risky.
Bonjour.
Et Véronique Yvon, députée de Joliette, porte-parole en matière d'éducation pour le Parti québécois. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Marois Risky, on s'est un petit peu parlé ce matin parce que vous m'avez dit... l'une des solutions au problème de ressources, c'est de demander aux étudiants qui sont en faculté d'éducation pour devenir enseignants, ils pourraient venir prêter main forte. Hein, c'est un peu ce que vous... Hein?
Oui, effectivement, on est tous conscients que là, on a des citrons et qu'il faut qu'on fasse de la limonade. Et je me suis dit, c'est le temps d'être audacieux et de revoir notre façon aussi d'enseigner. On comprend que le plan A, c'est le plan que tout le monde aimerait, mais ça se peut qu'on soit vraiment dans le plan B. Et pour moi, c'est inconcevable que ce soit l'école à la maison encore, même si c'est à temps partiel. Plusieurs experts le disent, l'adolescence, c'est un risque de décrochage pour plusieurs. Alors, c'est pour ça que c'est important de sortir les jeunes de la maison puis de les mettre dans d'autres lieux. Puis on peut en réfléchir, là. Écoutez, le Centre des sciences de Montréal, c'est un lieu magnifique parce qu'on pourrait mettre des jeunes. Le Musée des beaux-arts, c'est magnifique aussi. On pourrait revoir l'espace. Mais là, il y aurait le défi du personnel. Il y a environ 18 000 étudiants au baccalauréat en éducation et adaptation scolaire sur 12 facultés partout sur le territoire du Québec. Si on prenait la moitié qui sont en troisième et quatrième année de leur parcours universitaire, on aurait environ 8 000 étudiants qui pourraient venir nous prêter main forte. Et M. Drainville, ces étudiants ont aussi des stages à faire dans leur cursus scolaire. Alors, je vois ça comme une occasion de vraiment revoir nos écoles, mais aussi de sortir des classes. On n'est pas toujours obligé d'être dans une classe pour apprendre, mais il ne faut surtout pas les laisser dans la maison, parce que c'est impossible pour un parent, même en télétravail, de faire la leçon en même temps à leurs enfants.
OK. Véronique Yvon, vous avez proposé la formule moitié-moitié.
Oui. En fait, moi, ce que je demande au ministre, c'est qu'il donne un maximum de flexibilité aux commissions scolaires, aux directions d'école, parce qu'on sait que ça ne sera pas la même réalité si vous êtes en plein cœur de Montréal que si vous êtes en Abitibi ou dans le nord de la Naudière. Transport scolaire, difficulté d'avoir des locaux à Montréal qui n'est pas la même si on est en région. Donc, ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup de, moi, d'enseignants et de parents qui m'avaient dit à quel point ils aimeraient des demi-journées, parce que, puis même pour le secondaire, parce que ça permet d'avoir un contact quotidien qui t'assure de garder un maximum de motivation chez les jeunes plutôt qu'une semaine, une semaine ou certains jours oui, certains jours non. Mais moi, j'ai pas un seul modèle dans ma tête. Ce que je souhaite, c'est que les écoles et les commissions scolaires puissent avoir de la flexibilité. Oui. L'objectif étant de pas échapper personne. Puis l'enjeu de la garde scolaire au primaire, il est énorme et je pense qu'on doit penser à bonifier les heures de garde scolaire pour accommoder un maximum de parents. Puis comme le disait un peu Marois, ce qu'on a dit aussi au ministre, c'est on parle beaucoup là, des camps de vacances qui ne pourront pas ouvrir cet été, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que les journées ou les demi-journées où les élèves du primaire ne seraient pas à l'école, on ne pourrait pas organiser un maximum de partenariats, y compris en incluant des élèves du secondaire qui, eux aussi, vont être à demi temps puis qui pourraient s'occuper un peu des groupes pour avoir des activités sportives, des activités de nature, des activités culturelles, parce qu'il va falloir trouver des solutions pour les élèves du primaire si c'est le demi-temps qui s'impose.
On en a discuté dans l'équipe parce qu'on a des parents, on est tous des parents en fait dans l'équipe, et l'une des objections à la proposition demi-temps, Véronique Yvon, c'était que un parent, par exemple, qui peut être à la maison une ou deux journées par semaine en télétravail, si on choisit la formule moitié de la journée en classe, moitié de la journée au service de garde ou ailleurs. Tu sais, le parent qui est en télétravail, il va pas venir à l'école chercher son enfant sous l'heure du dîner pour le ramener à la maison. Là, tu sais, ça serait. Je vous dis pas que c'est une objection incontournable. Là, on est vraiment tous dans une espèce de réflexion pour essayer de trouver la meilleure formule. Mais il y en avait qui voyaient dans cette formule-là un problème pour les parents qui seraient prêts. Puis je comprends que c'est pas tous les parents qui vont pouvoir avoir une ou deux journées par semaine en télétravail. Qu'est-ce que vous répondez à cette objection-là?
Ben, il n'y a pas de solution parfaite, c'est vrai. Hein? Je pense que c'est ce qu'on voit. Puis c'est vrai que pour certains parents qui auraient la possibilité peut-être d'être à la maison deux ou trois jours, c'est un enjeu. Pour d'autres qui n'ont pas ça, c'est comme une sécurité pour eux de dire au moins mon enfant, je sais que tous les jours, il va être encadré au moins la moitié de la journée. Et si il y a de la garde scolaire qui peut s'organiser et les parents qui sont en télétravail pourraient ne pas mettre leur enfant en garde scolaire, mais que ce soit réservé à ceux qui sont vraiment mal pris, il y en a qui voient ça d'un bon œil. Mais je comprends que pour d'autres qui se disent, moi, je peux peut-être avoir une journée ou deux à la maison, j'aimerais mieux. Donc, il n'y en a pas, mais je pense qu'en ce moment, ce qu'il faut trouver, c'est de la flexibilité. Et moi, je ne dis pas que c'est une meilleure solution, je dis juste qu'on l'a vu ce matin, la commission scolaire Pointe-de-l'Île, par exemple, elle, c'est ce qu'elle préconise, des demi-journées. D'autres préconisent des journées alternées. Fait que l'idée, je pense qu'il faudrait vraiment se tourner vers les milieux puis voir avec eux ce qui est le plus intéressant puis de leur donner de la marge de manœuvre. Puis pour la garde scolaire, bien, il va falloir être vraiment imaginatif, ça, c'est clair. Puis il faut se mettre en mode imagination maintenant.
Marois Risky, c'est vous qui aurez le dernier mot. Est-ce qu'il faut prendre pour acquis qu'on va être perdant, peu importe ce qui arrive. Puis j'aime pas ça poser cette question-là, mais j'essaie d'être réaliste. Dans les circonstances actuelles, on cherche le moins pire des modèles. On cherche pas nécessairement le meilleur. On cherche celui qui va faire le moins de mal à nos enfants. Parce que si tu as moins de temps en classe, si tu as moins d'attention de ton prof, si tu as des difficultés, puis tu n'as pas les mêmes ressources, tu as tout le chambardement de ta routine, le stress que ça crée dans la cellule familiale. Il faut accepter qu'on n'aura pas 100% du rendement, là.
Ben moi, j'ai envie de vous dire qu'on est capable de faire mieux. Écoutez, c'est une chose qui a été positive, ça a été l'impact des petits groupes. Les petits groupes, là, les enfants ont aimé ça, les parents aussi ont aimé ça. Mais il faut avoir plusieurs petits groupes, au fond, 100% des petits groupes. Et l'idée, par exemple, que ce soit des journées alternées ou des demi-journées, l'important, c'est que la période que l'enfant n'est pas dans sa classe dite traditionnelle, peut-il être ailleurs? Si, par exemple, il va le matin, il est en classe, est-ce que l'après-midi, il peut faire une activité sportive? Est-ce qu'il peut faire une activité culturelle? En ce moment, le milieu de la culture, là, souffre. Est-ce qu'on pourrait justement avoir plusieurs ministères qui travaillent ensemble pour trouver des solutions? Je vous donne un autre exemple. Mm-hmm. J'ai demandé avec M. Roberge tantôt, les camps des débrouillards, là, qui est vraiment là, au niveau des sciences, une super de belle expérience durant l'été, ne peuvent pas ouvrir cet été. Ils n'ont pas assez d'argent non plus pour respecter les normes sanitaires. Est-ce qu'Isabelle Charest puis le ministre Roberge pourront nous travailler pour relancer ces camps de débrouillards et les autres camps qui peuvent nous prêter main forte? Parce que oui, on a besoin d'une période de récupération pour ceux qui en ont besoin. Alors, sur ça, c'est un plan de transition. J'en ai parlé avec Mme Yvon puis M. Roberge. Mm-hmm. On sait que les cinquième année secondaire, l'année prochaine, c'est la grande étape, le cégep. Mais aussi les sixième année, les tout petits qui s'en vont vers la grande école. Est-ce qu'on peut avoir ce camp de transition, une période de récupération? Est-ce qu'on peut aussi réfléchir autrement, pourquoi qu'à chaque année, à partir du 22 juin, tous les services professionnels, orthopédagogue, psycho-éducation, sont coupés? Est-ce que ça pourrait être un service continu à l'année? Parce que ceux qui sont en difficulté d'apprentissage, là, leur trouble n'arrête pas le 22 juin. Là. Alors, est-ce qu'on peut justement revoir nos façons de faire et pour de vrai être audacieux et tout le monde travailler ensemble?
En tout cas, vous êtes prête à travailler avec le ministre pour essayer de trouver la meilleure formule possible. Et honnêtement, on s'en réjouit. Il y a également la députée de Québec solidaire, la députée de Sherbrooke, Christine Labrie, qui travaille aussi. Je pense qu'elle est dans un très bon état d'esprit. Donc, on est content de voir que vous travaillez ensemble. Marois Risky, députée de Saint-Laurent. Véronique Yvon, députée de Joliette. Merci à vous deux.
Merci de votre intérêt.
On compte sur vous. Merci. On va aller à la pause. Au retour, je vais prendre vos appels, vos courriels. Vous êtes déjà nombreux à m'écrire au 98985 par texto. Drainville à commercial 985fm.ca et 790-9850. Par quel bout je le prends? Est-ce que vous préférez la demi-journée ou les journées d'alternance? Est-ce que vous préférez que vos enfants aient à l'école à tous les jours? Mettons, ils sont là, ils sont en classe tous les matins, puis l'après-midi, ils sont ailleurs, je ne sais pas trop où, là, vous voyez le problème. Ou les journées alternées, dis-je. Donc, 2 jours à l'école, 3 jours à la maison ou 3 jours ailleurs. La semaine suivante, 3 jours à l'école, 2 jours ailleurs, on ne sait pas trop où. 790-9850. OK, on va aller à vos appels. Je m'adresse aux parents en particulier, là. Est-ce que, dans le fond, une autre manière de la poser, la question, est-ce que pour vous, là, l'école à la maison, c'est possible en septembre? Est-ce que c'est possible de garder, mettons, votre enfant 2 jours sur 5? Tu sais, s'il est à la maison, là. Ou est-ce que pour vous, c'est vraiment pas possible? Donc, il faut que l'enfant soit 5 jours à l'école. Puis là, ben à ce moment-là, la formule évidente pour vous, c'est ben il va être en classe l'avant-midi puis l'après-midi que le ministre s'organise pour l'occuper. Naïma, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, j'ai 3 enfants qui vont être au secondaire. Puis je vois ça impossible de retourner à l'école avec des règles de distanciation sociale ou quoi que ce soit. C'est soit on retourne à l'école ou soit on y retourne pas. Ça peut pas être entre les deux parce que ça va être vraiment trop compliqué à gérer pour les parents puis pour les professeurs. Puis avant de prendre cette décision-là, je pense que les premières choses qui doivent être à regarder, c'est les taux de mortalité chez les enfants. Puis aussi, comme là, au Canada, il y a 7 millions d'enfants, il n'y en a pas un seul qui est mort du virus.
À ma connaissance, aussi, non. Mm-hmm.
Puis aussi, il faut regarder les études sur la transmissibilité du virus par les enfants. Parce qu'il y a des dernières études qui montrent que même si l'enfant est porteur, il est il va pas nécessairement le donner à quelqu'un.
Alors, Naïma, si je vous entends bien, restons sur le retour en classe. Vous seriez favorable à ce que les trois enfants retournent à l'école secondaire comme avant la COVID?
Oui, en septembre.
En septembre, très bien.
Si c'est démontré que l'enfant n'est pas à risque et qu'il n'est pas porteur,
d'accord,
les enfants peuvent retourner à l'école normalement.
Très bien.
Mais avant de prendre cette décision-là, il faut regarder c'est quoi les données scientifiques.
Scientifiques. Merci, oui. Naïma. Merci pour l'appel. Louis, bonjour.
Salut. Je suis enseignant au secondaire avec, finalement, ces rebelles élèves, là, selon tout le monde. Mmh. Et j'aimerais partager une expérience avec laquelle je pense que c'est très positif.
Oui.
Alors, depuis le début de la semaine, à tous les jours, à une heure précise, je donne un cours de mathématiques live qui dure environ une demi-heure avec un retour sur les exercices proposés la veille, et ainsi de suite. J'enregistre mon cours. Par conséquent, je vous partage des choses intéressantes. Tout d'abord, environ 75 % des élèves assistent en direct.
Mmh.
Il y a un autre pourcentage qui regarde les enregistrements au gré de leur disponibilité. Je vous rappelle que chaque niveau, c'est des difficultés. En secondaire 1 et 2, certains travaillent à garder leurs petits frères, leurs petites sœurs.
Oui.
En secondaire 3, 4, 5, ben, ils travaillent au IGA. Donc, je peux les rejoindre quand même, peu importe leur niveau.
Mmh.
Mais ce qui est très intéressant, là, c'est que dans le fond, comme je suis en relation avec 75 % des élèves en même temps, mais en réalité, c'est seulement un pour un, parce que l'élève m'écoute sans dérangement, sans son brisé, mm-hmm. sans élève qui le taquine ou qui lui lance un papier. Donc, mes élèves sont full concentrés. S'ils veulent avoir une question supplémentaire, ils ont juste à réécouter l'enregistrement si quelque chose n'était pas clair.
Mm-hmm.
Puis ensuite, ils peuvent étudier ou bien le faire à leur rythme. Donc, si un élève a de la difficulté d'apprentissage, ben, il peut regarder 5 minutes de l'enregistrement seulement pour revoir une notion.
Est-ce qu'ils peuvent vous contacter après le cours par courriel pour vous demander des précisions?
Oui, ça, c'est le restant de l'expérience que je voulais partager. C'est que finalement, en direct, 75 %, mais le restant de la journée, il me communique continuellement, ils m'envoient les travaux, je les corrige, je les remets. Mais ce qui est intéressant, là, c'est que les élèves qui sont gênés, les élèves qui ont besoin d'un rythme différent, les élèves qui n'osent pas se lever ou lever leurs bras, ou bien quand ils se lèvent, ça prend 5 minutes pour se rendre au prof, bien là, ça n'arrive pas. Ces élèves-là, ils sont directs avec moi, un pour un, avec ou sans caméra. Puis moi, j'ai un tableau numérique dans ma classe, dans ma chambre maintenant, un tableau avec acétate. Je peux faire le cours directement avec eux sur le mur de ma chambre ou sur mon écran partagé.
Louis, merci pour le partage de cette expérience. Louis, je dois vous laisser, mais je suis très content que vous m'ayez appelé. Je me tourne vers Geneviève maintenant. Bonjour, Geneviève.
Oui, bonjour. Alors, moi, je crois que les élèves devraient retourner seulement à demi-journée plutôt que des journées variables de 2 semaines à 3 semaines. La raison, c'est que j'ai l'impression que les élèves vont avoir quelque chose de plus continu, donc moins sentir qu'ils sont en congé ou en vacances la journée qu'ils vont pas à l'école. Puis aussi, probablement que ça l'aiderait à libérer des places en service de garde pour les élèves qui en ont besoin, dans le sens où je pense que les élèves qui sont dans le dernier cycle du primaire, les parents seraient peut-être plus enclin à dire, bon, ben, tu sais, mon enfant peut faire quand même une demi-journée seul à la maison, un petit 2-3 heures avant que j'arrive de travailler. Alors que pour une journée complète, bon, on est peut-être plus hésitant là, de ce côté-là.
OK. Donc, vous, ce que vous me dites, c'est que, mettons, que l'enfant reste le matin à la maison. Vous seriez en mesure d'aller le déposer à l'école sur l'heure du midi pour qu'il puisse être en classe pour la période de l'après-midi, c'est bien ça?
Ben, en fait, je crois que surtout s'il va le matin, c'est encore plus facile, mais il pourrait y aller ou on pourrait aller le mener, puis il pourrait revenir là à la maison pour l'après-midi. Puis je serais à l'aise de le laisser jusqu'à temps que je revienne du travail vers 4-5 heures. Là. Donc,
c'est un élève du secondaire, hein, Geneviève?
De la fin du primaire.
Fin du primaire, vous seriez à l'aise, de le laisser?
Pour une demi-journée, je pense que c'est quelque chose de possible, alors qu'une journée complète, ben là, c'est un peu plus problématique de pouvoir le faire.
C'est intéressant. Merci, Geneviève, d'avoir appelé. Alors, vous êtes nombreux à m'écrire. Ça va dans tous les sens, honnêtement. Il y en a parmi vous qui a préféré l'école en alternance. Il y en a d'autres moitié-moitié. Écoutez, on n'a pas fini d'en parler. Hein. On amorce la discussion, mais je vous le dis, moi, c'est un dossier que je vais suivre beaucoup, beaucoup, parce que il s'agit de l'avenir de nos enfants. Et ça nous touche tous comme société et comme parents, n'est-ce pas? Fait qu'on s'arrête. Au retour, on va prendre ça un peu plus léger. On va penser à notre barbecue de la fin de semaine. Comment est-ce qu'on s'assure que le barbecue, ça aille bien puis qu'il n'y ait pas de transmission? C'est des espèces de règles de base pour s'assurer que notre party se passe bien. Notre party est limité à 10 personnes, pas plus que 3 familles.